Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue en présence de Ludivine Sagné et vous pouvez m'enlever cette musique car l'heure est grave, ou plutôt grave l'heure est. C'est aujourd'hui que sort l'ultime épisode de Star Wars et je sens monter en moi le côté obscur du journalisme, cette force maléfique qui m'entraîne vers le chaos. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était face à Akhenaton et Shuriken du groupe IAM. Ma bouche voulait dire IAM, mais le côté obscur a pris le contrôle de ma bouche et n'a pas dit IAM. Oh non, Ludivine, pas du tout. Ma première question est beaucoup plus prosaïque. Quand vous avez créé NTM en 89...
On n'a pas créé NTM, on a créé IAM. Vous l'avez enregistrée, celle-là, elle est pas mal.
Oui, alors, comme on ne peut évidemment pas mettre cette erreur sur le compte d'un manque de professionnalisme, c'est clair, c'est forcément le côté obscur de la Force. Ouais. Au fait, Alain Sirou, la Force, le côté obscur, la vitesse de la lumière, l'étoile de la mort, la saga Star Wars est-elle crédible d'un point de vue scientifique? C'est votre sujet du jour.
Oui, il y a... Ça a pris une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a énormément de livres qui sortent, écrits par des scientifiques sur Star Wars, sur la science de Star Wars. Et il y a des conférences. Et là, une des dernières... Je vais vous donner le titre parce que c'est vraiment très rigolo. C'est « L'empereur porte-t-il des talonnettes pour éviter de s'électrocuter avec ses propres éclairs ?» C'est très sérieux. C'est-à-dire, en fait, la plupart du temps, pour un prof de physique ou pour des gens qui enseignent la science dans les écoles, un peu partout, c'est d'être intéressant. C'est d'amuser, c'est d'interroger. En fait, c'est ça la connaissance, quoi. C'est ce qu'on est capable de déclencher quelque chose. Et Star Wars, pour le compte, il est bourré de choses. Bon, alors évidemment, le truc le plus baltringue, si je puis dire, c'est le sabre laser.
Alors ça, c'est pas possible, parce que le laser, il peut pas s'arrêter.
D'abord, un laser, c'est une lumière cohérente, il faut qu'il s'arrête. Oui. Ensuite, ça fait pas bzzz, la lumière fait pas bzzz. Si on se battait avec Anissa avec un sabre laser, quand vous croisez la lumière, ça fait rien, je veux dire, ça s'arrête pas.
C'est pas Anissa, mettez-vous. C'est
Anissa. C'est
Anissa. Mais donc, chez les Jedi, on m'appelle Anissa. Ouais.
Donc, il y a des technologies, mais Le fond qui est le plus intéressant chez Star Wars pour les physiciens, c'est les questions d'énergie et de vitesse. Ouais. Je vous donne des exemples. Se balader dans la galaxie à la vitesse de la lumière. Si ça existait, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont... Bon. D'abord, on s'emmerderait beaucoup au cinéma parce qu'il faudrait attendre des centaines d'années avant de passer d'une étoile à une autre. Bon, donc c'est un peu raccourci.
Même à la vitesse de la lumière.
Ben oui, parce que l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Traverser la galaxie, c'est 100 000 ans. Bon, 100 000 ans, c'est un peu long, quoi. Après, le fond du fond, c'est comment ça marche. C'est-à-dire, quand vous regardez l'étoile noire, par exemple, de Star Wars, qui est une espèce de forteresse absolument invraisemblable, donc les physiciens regardent ça en disant, d'abord, quelle est la taille de l'étoile noire? Comment elle a été constituée? Comment elle a été fabriquée? Puis surtout, quelle est sa source d'énergie? Parce qu'elle est capable, dit-on, de désintégrer une planète.
Une planète entière, oui, avec un gros laser. Ah ben ouais.
Une planète, c'est quoi sa cohérence? Combien d'énergie il faut pour désintégrer une planète? Ça, on peut calculer ça en nombre de joules, en nombre d'énergie, avec un faisceau cohérent, etc. Et la solution trouvée par les physiciens, elle est géniale, c'est que pour alimenter cette énergie, il faut à l'intérieur de l'étoile noire un mini trou noir qui tourne très très vite sur lui-même. Parce c'est la seule chose qui ait suffisamment d'énergie pour détruire l'équivalent d'une planète. Le Soleil, à lui tout seul, n'y suffirait pas en termes d'énergie.
Le Soleil,
non.
Il n'y a pas assez d'énergie dans le Soleil pour détruire une planète.
Pas du tout. Donc vous comprenez qu'à partir de choses qui sont d'univers de la fiction, du rêve, etc., on a de vraies questions. Mais le plus fascinant pour moi, c'est que la science a rattrapé Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars avait inventé des planètes extrasolaires bien avant qu'on les découvre. Les exoplanètes, voilà. En 95, on les découvre.
Vous avez bossé l'émission avant de venir, parce que je n'ai jamais vu un invité qui connaît
son chose. J'essaie de participer.
Mais c'est ça, je le souligne.
On découvre ces premières planètes en 1995, mais Lucas les avait inventées avant. Et aujourd'hui, on est familier d'un certain nombre de planètes. Alors, les planètes qui sont des planètes océans, on sait qu'elles existent. Les planètes...
La planète désert, Tatooine.
Alors, Tatooine, c'est un cas à part.
Ah bon?
Tatooine, c'est une planète sur laquelle... qui tourne autour de deux soleils.
Oui, ça donne des très belles images.
Assez invraisant.
Et ça existe ?
Et figurez-vous, alors d'abord, ça existe, et aujourd'hui, à l'Union Astronomique Internationale, on parle des planètes qu'on découvre autour de deux soleils, des planètes Tatooine. C'est-à-dire qu'elles ont pris le nom, finalement, de la saga Star Wars. On dit, tiens, on a découvert une Tatooine. C'est assez rigolo. Et je vais conclure par quelque chose qui va beaucoup vous amuser, c'est les grandes énigmes. Parce qu'en fait, vous avez parlé de la Force, mais c'est quoi la Force ? La Force, c'est une vraie question pour la cosmologie. C'est-à-dire que nous vivons dans un univers où 96% de ce qui existe est invisible et inconnu. On appelle ça énergie noire, matière sombre. On ne sait pas ce que c'est. On voit bien que l'univers est dominé par quelque chose qui ressemble à une force inconnue. Donc le mot force interroge, mais le top du top, c'est les super méchants. Parce que dans Star Wars, c'est quand même une saga où il y a des bons et des méchants. Mmh. Et la question, c'est est-ce que les super méchants existent dans l'univers ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des colloques scientifiques qui se réunissent régulièrement et qui interrogent ce qu'on appelle
c'est
le principe de Fermi.
C'est les alcooliques anonymes, ça s'appelle. Non, c'est pas pareil.
C'est ce qu'on appelle le principe de Fermi, c'est pourquoi sommes-nous seuls et pourquoi s'il y a des extraterrestres, ils ne sont pas encore là ? Eh bien, certains pensent aujourd'hui qu'il faut faire attention à ne pas trop se signaler dans l'univers parce que
il faudrait la jouer discrète.
S'il existe des super méchants, alors ils vont nous entendre.
On aura l'air malin avec tous nos signaux qu'on envoie.
Et ils pourraient arriver. Et donc, certains préconisent de limiter l'ampleur des communications pour ne pas être attaqués par des vilains.
Je vous remercie Alain pour cette chronique qui était fort intéressante. J'ai néanmoins une question subsidiaire. Dans Star Wars et dans beaucoup de films de science-fiction, on voit des explosions dans l'espace.
Oui.
Or, je crois que ce n'est pas possible techniquement des explosions dans l'espace, qu'on voit du feu par exemple dans l'espace.
Alors, il peut y en avoir, mais pas du tout avec ni cette vitesse, ni le bruit, ni cette intensité.
Ah oui, il n'y a pas de bruit, forcément, parce qu'on entend beaucoup de bruit dans les collisions. Merci en tout cas, Alain Siro.